This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 514 du podcast de Journal Actuel à Mathieu. Très heureux de vous retrouver pour débriefer la semaine 4 en NFL de la saison 2022. Les trois plus grosses affiches, en tout cas à mes côtés, il est fraîchement rentré de Londres. Choc climatique, je suppose, du coup, Lucas Vola.
Oui, choc climatique. En plus, je t'ai entendu dire hello, hello. Je pensais que j'y étais encore, mais bon, c'est... Non, choc climatique, en effet, quand on passe de Londres à Toulon. Je vais pas mentir, on gagne quelques degrés.
Alors tu es bien aimable, mais il paraît que j'ai un accent américain et pas du tout anglais. Ah. J'ai énormément de mal à comprendre les anglais quand j'y vais, parce que je trouve qu'ils ont pas du tout... J'ai été élevé à ESPN, tu sais, malheureusement.
Eh oui, comme nous
plutôt qu'à, voilà, plutôt qu'à Shakespeare. Le retour de la NFL à Londres, on va donc en parler, mais avant ça, on va parler des Chiefs qui se sont réveillés en attaque et des Eagles qui sont la dernière équipe invaincue. On va commencer avec ça, Lucas. Eagles 29, Jaguars 21. C'est donc la dernière équipe invaincue en NFL. 4 victoires, 0 défaite pour Philadelphie. Et une victoire intéressante parce que Philadelphie était menée 14-0 après le premier quart-temps. Et là, Victor Roulier, notre spécialiste Eagles dans la rédaction, a dit « On va voir si on est une vraie équipe ». Ils ont gagné. Test réussi, Lucas. Ils ont une vraie équipe.
Oui, 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 pour le coup, oui, c'est vrai. Et en même temps, il n'avait vraiment pas tort parce que c'est peut-être une des premières fois où vraiment ils ont été testés. Alors certes, ça fait bizarre de dire que l'équipe est testée par les Jaguars. Et pourtant, quand on voit les deux dernières semaines, on sait que cette équipe des Jaguars, elle peut faire des dégâts. Et en effet, ils ont été testés. Qui plus est, quand on voit qu'en plus, le début de match ne se passe pas forcément comme il faut, quand on voit que les conditions climatiques étaient dantesques, et il pleuvait beaucoup sur ce match-là, ce qui ne rend pas forcément les choses faciles, qui a tendance parfois à niveler souvent les équipes et à les rendre à un niveau assez... On se rappelle notamment San Francisco-Chicago en début de saison, qui a rendu un match un peu compliqué. Et là, pour le coup, avec le caractère, avec Jalen Hurts, ça revient, ça fait de bons jeux, que ce soit notamment au sol, et puis ça passe devant, et puis en fait, il gagne ce match en maîtrise, entre guillemets, c'est un peu fort de dire ça, mais il gagne ce match de belle manière, et il sort de cette quatrième semaine toujours invaincu, tu l'as dit. Qui l'aurait cru que les Eagles auraient été la seule équipe invaincue après 4 semaines? Pas grand monde, peut-être Victor, et encore que, il est très dur avec son équipe.
C'est pas sûr,
donc,
ouais.
Ouais, donc... Mais bon, alors peut-être nous, parce qu'on les avait vraiment beaucoup hypés dans la pastille. Quoi qu'il arrive, voilà, je sais pas si on avait été visionnaire ou pas, mais en tout cas, ils font un très bon début de saison.
C'est vrai qu'on n'était pas à côté de la plaque. Pour le coup, ça marche très bien. Je résume la partie. Donc 14-0, ils étaient menés. Derrière, ils marquent 3 touchdowns dans le second quart pour reprendre le contrôle du match. Pas de points dans le troisième quart. Et puis un nouveau touchdown de Miles Sanders pour mener 29-14 dans le dernier quart-temps. La victoire est défensive, moi je trouve, c'est aussi ça qui est une bonne nouvelle, non, pour une équipe qui s'est surtout illustrée en attaque. Là, il y a 5 ballons volés pour Philadelphie. Après le premier quart, ils ont complètement fait caler Jacksonville, qui termine avec 219 yards seulement en attaque. Oui, il y a les conditions météo, mais c'est quand même une belle info, cette victoire défensive, je trouve.
Oui, parce qu'en fait, l'année dernière, si on se rappelle, les Eagles font les playoffs, ils se qualifient un petit peu à l'arrache, entre guillemets, avec une équipe qu'on imagine qui va progresser, et ils se qualifient l'année dernière grâce à un jeu au sol, notamment Jalen Hurts, et à la défense. Et cette année, on les a vus lors des trois premières semaines gagner, notamment grâce à l'attaque, et notamment grâce à une attaque aérienne, ce qui était un peu nouveau, et on s'est dit... Ah, c'est un nouveau développement de cette équipe-là. Mais ce qu'on voit là, ce qu'on a vu contre les Jaguars, c'est que ce qui a fait leur force l'année dernière est toujours là. Et ça, c'est très important. C'est de savoir que, oui, ils peuvent gagner à la passe, ils peuvent gagner dans les airs, ils se sont développés. Jalen Hurts est toujours aussi bon dans les... En tout cas, il est devenu très bon dans les airs, ce qu'on a vu les trois premières semaines. Mais cette équipe-là, elle est capable de gagner par sa défense, capable de gagner par son jeu au sol, ce qui fait une équipe complète. Et ce qui fait qu'une équipe, bah, peu importe la situation, elle va pouvoir trouver des moyens et des solutions pour gagner. Et ce qui fait que quand on arrive en play-off, notamment, on le sait, il y a toujours des matchs où c'est pas forcément la situation qu'on imaginait, c'est pas forcément les forces qu'on imaginait, où l'équipe adverse enlève quelques forces qu'on pourrait avoir. Et là, on voit que selon le match, selon la situation, cette équipe-là peut gagner. Alors, j'anticipe beaucoup sur les play-offs, mais c'est un très bon signe pour notamment les matchs, le football de janvier, quand même, dire les Américains.
C'est exactement ça. Je suis pas inquiet, par exemple, du match de Jalen Hurts, qui fait 204 yards, qui lance pas de touchdown, parce que, eh ben, justement, la bonne leçon de ce match, c'est de dire, les conditions sont pas bonnes, on peut pas forcément lancer de ballon, on n'est pas forcément en réussite, c'est pas grave, on va mettre le ballon 50 fois au sol, littéralement, 50 courses, 210 yards, 50 courses pour 25 passes. Donc, vraiment, on est du simple au double. C'est comme tu le disais, idéal parce que tu peux aborder toutes les situations. Si t'es mené, tu peux lancer. Si t'es devant, tu peux courir. Tu peux serrer le jeu en défense. Franchement, le test était vachement intéressant et ils le passent plutôt bien en ayant été mené comme ça. Ils ont montré qu'ils pouvaient courir derrière et ensuite gérer avec le jeu au sol. Donc c'est franchement plutôt pas mal. Du côté de Jacksonville, c'est je vais pas dire la douche froide parce qu'ils en étaient quand même pas, ils en sont pas encore à prétendre au sommet, mais ça les calme un peu. 11 sur 23, 174 yards, 2 touchdowns, 1 interception pour Trevor Lawrence. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux dans ces conditions-là, notamment? On l'a vu, c'était pas facile non plus pour Jalen Hurts, qui est quand même rodé avec des receveurs un peu plus costauds. Donc, est-ce que vraiment on peut dire que Trevor Lawrence a marqué le pas, ou est-ce que ce serait inquiétant? J'ai pas l'impression, honnêtement.
Non, c'est pas inquiétant. Et pour revenir déjà à ce que tu disais, ça va faire le lien. Tu dis t'es pas inquiet sur le match de Jalen Hurts. J'ai même envie de te dire qu'il fait un bon match, Jalen Hurts. Compte tenu des conditions, compte tenu des erreurs qui sont quand même très faibles, et on le voit, les erreurs, elles étaient faciles à faire dans ce match-là. Et on voit Trevor Lawrence, et le lien est là, que lui, il en a fait des erreurs. Alors c'est normal, cette équipe-là, elle n'est pas au même niveau dans sa progression, dans son évolution, que les Eagles. C'est normal, c'est presque les Eagles de l'année dernière, voire encore un peu avant. C'est normal qu'ils perdent ce genre de match-là. Ils sont pas encore assez rodés. Trevor Lawrence n'est pas encore assez rodé, on le voit. Il perd pas mal de ballons, il perd quelques fumbles, notamment. Alors oui, il y a le fait que le ballon est très mouillé. On l'a vu notamment quand il sort de cette poche. Le ballon lui glisse des mains. Il y a cette interception qu'il lance, qui est pas très belle quand même. Mais c'est presque normal que Trevor Lawrence, il ait des matchs comme ça, à ce moment-là de sa carrière. Maintenant, si ça revient, il refait deux matchs comme il a fait la semaine dernière et la semaine d'avant, et qu'une fois tous les trois matchs, une fois tous les quatre matchs, il fait un match comme ça, c'est presque normal. Cette équipe-là, elle ne prétend pas pour l'instant en play-off, on verra comment ça se passe, mais je veux dire, voilà, il joue des Eagles, il les joue à l'extérieur, une équipe qui est en forme. Il démarre bien, il cale un petit peu, voilà. Et en défense, il y a eu quelques soucis au sol. C'était une des meilleures défenses au sol de la ligue, si ce n'est la meilleure avant ce match-là, je crois. Elle se fait ouvrir. Bon, il y a voilà, Doug Peterson fait du travail, fait du bon boulot. Ils sont pas passés à côté de ce match-là, mais ils manquaient de beaucoup de choses pour réussir à battre une équipe comme celle-ci dans les conditions comme on les a vues.
J'aime bien la comparaison avec les Eagles de l'an dernier, en effet, c'est plutôt bien pensé. Du côté de Philadelphie, on l'a dit, 4 victoires, 0 défaites, c'est la seule équipe invaincue de la Ligue. C'est très équilibré cette année, parce que j'ai souvenir d'années où il y avait plus d'équipes qui commençaient par des 4-5-0, t'en avais 3-2-3, là il n'y en a qu'une seule, et à l'inverse, tout le monde a gagné au moins un match, sauf les Texans. Oui. Alors qu'on n'est qu'au bout de 4 semaines, donc c'est plutôt équilibré. Est-ce que les Eagles sont la meilleure équipe de la NFC? Parce que si tu regardes le classement derrière eux, actuellement, dans la conférence, c'est Vikings, Cowboys, Giants, Packers, Rams, qui n'ont pas joué au moment où on enregistre, donc ils sont à 2-1. Et derrière, à 2-2, les Buccaneers, les Cardinals.
Je pense, franchement, je pense. Alors après, on le dit toujours, c'est des équipes qui sont très bonnes en septembre slash octobre. On est rentré en octobre, ça y est. Il va falloir l'être sur 3-4 mois et il va surtout falloir l'être en décembre, janvier, février. C'est pour celles qui ont le plus de chance. Donc, on verra si ça arrive à tenir parce qu'il y a des équipes qui vont s'adapter. On pense aux Cardinals l'année dernière qui ont très bien commencé, qui ont un petit peu plus mal fini. Je ne sais plus à combien ils sont, mais ils sont à 6-0, peut-être 7-0, quelque chose comme ça.
C'est Cliff Kingsbury, donc oui, ouais. Ils ont très bien commencé, ils ont très mal fini.
Mais voilà, mais à l'instant T, semaine 5 à l'approche, je pense qu'en effet, les Eagles possèdent la meilleure équipe de NFC, à mon avis, sans trop de débat. Ouais.
Les Cardinals avaient commencé par 7 victoires et 0 défaites la saison dernière. Le calendrier est très prenable pour continuer du côté de Philadelphie, puisque ça jouera Cardinals, Cowboys, Steelers, Texans, Commanders et Colts dans les semaines à venir.
Ça peut faire une Cardinals en début de saison. Après, voilà, on verra pour la suite.
Voilà, y a de quoi faire monter un petit peu l'addition. En tout cas, le duel avec les Cowboys sera intéressant, puisque Dallas n'est pas très loin derrière. On en reparlera dans l'émission de demain. Buccaneers, 31, Chiefs, 41. Les Buccaneers ont perdu le ballon dès le coup d'envoi du match. À partir de là, les Chiefs ont pris les choses en main. Ils ont marqué rapidement. Ils ont mené 21-3. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés derrière, même si le score est un peu plus serré. Meilleure prestation offensive de la saison pour Patrick Mahomes et les Chiefs contre une excellente défense de Tampa quand même depuis le début de l'année. Est-ce qu'on est définitivement plus inquiet pour les Chiefs, Lucas? On a une sorte de baromètre depuis le début de l'année, inquiet, pas trop inquiet, inquiet, pas trop inquiet, parce qu'on jauge depuis le départ de Tyreek Hill. Où est le baromètre aujourd'hui?
Ah, il est très haut. S'il doit bien être haut une semaine, c'est cette semaine. La semaine dernière, il était très bas, je crois, 16 points uniquement ou 17 mis à la défense des Colts. Donc, ça faisait pas beaucoup. Il était très bas. Là, il est remonté en flèche parce que, tu l'as dit, c'est face à une très bonne défense des Bucks. C'est-à-dire que on s'extasie vraiment beaucoup sur la performance offensive des Chiefs. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai ce souvenir des Chiefs très récent, de cette attaque qui marchait sur tout le monde avec des gros jeux, qui était inarrêtable et qui vraiment ne ralentissait jamais. Là, pour le coup, je trouve que la différence, c'est que elle a été, alors pas ralentie, mais elle a été challengée jusqu'à son maximum, parce que la défense des Bucks, elle prend 41 points certes, mais elle fait ce qu'elle peut pour ralentir Patrick Mahomes, pour l'amener sur des troisièmes tentatives, pour l'amener sur des... Et toujours, les Chiefs arrivent à passer au-dessus de cette défense-là, arrivent à faire l'image la plus parlante pour appuyer ça, c'est le touchdown de Mahomes qui sort, que tout le monde a certainement vu depuis, qui sort de sa poche sur la droite, qui est quasiment plaqué par Carlton Davis, je crois, qui s'échappe, qui jette ce ballon, c'est même pas une passe, mais il la pousse, ça fait un touchdown. C'est vraiment là, il y a une défense qui est très bonne et il y a une attaque qui est encore meilleure et qui est quasiment exceptionnelle avec un joueur exceptionnel. Donc inquiet, non, c'est plutôt même agréable à regarder.
417 yards pour les Chiefs, on l'a dit, contre la défense de Tampa. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est 37 courses pour 37 passes. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du jeu au sol de Kansas City, de Tampa et de Buffalo notamment, qui sont des équipes assez déficientes dans le domaine. Là, tu as 189 yards et 2 touchdowns au sol. Clyde Edwards-Helaire qui tient un peu les promesses. Je ne sais pas s'il y avait d'énormes promesses, mais c'est quand même un joueur choisi au premier tour, donc on va dire que si. 92 yards au sol. Isaiah Pacheco qui rajoute 11 courses pour 63 yards. Je trouve que la grande nouvelle, c'est qu'ils arrivent à être équilibrés. Est-ce qu'ils arriveront à le reproduire? Je ne sais pas, mais je crois que c'était sur le premier match de la saison qu'ils gagnent assez largement aussi avec plus de 40 points. Là, déjà, il y avait des prémices d'équilibre. Donc s'ils arrivent à trouver un peu ça, je trouve que ça peut faire la différence. On l'a vu là avec un Tampa, pourquoi pas avec un Buffalo, qui est quand même une équipe qui peine aussi au sol. Donc la leçon de ce match, pour moi, au final, elle va au-delà de Patrick Mahomes, parce qu'on est loin de ses meilleures fiches de stats. Il est à 249 yards à la passe.
Ouais,
c'est presque un jour ordinaire pour lui.
Ouais, clairement. Clairement, mais parce que comme on le disait, cette défense-là, elle s'est pas juste retournée et a pris des points en veux-tu en voilà. C'est qu'il a fallu batailler, et en effet, il a fallu batailler, et ce sol-là lui a permis. Alors, je vais dire quelque chose, vous pouvez enregistrer et vous le passer en boucle, hein, je vais enfoncer une énorme porte ouverte, mais quand on a une très bonne attaque offensive, et une très bonne attaque aérienne, et une très bonne attaque au sol, et on a une très bonne attaque tout simplement. Donc, en effet, ça devient dur à arrêter, même si on est très bon en défense, ça devient dur à arrêter quand on arrive à être équilibré comme ils l'ont su le faire. Et comme tu dis, s'ils arrivent à le faire souvent, je vois pas beaucoup d'équipes qui seront capables de les arrêter.
Ce qui les a aidés un petit peu quand même, il faut le préciser, c'est qu'il y a deux touchdowns sur des drives très courts, puisque le premier, on l'a dit, il y a un fumble de Tampa sur le coup d'envoi, donc il récupère le ballon des Chiefs à 21 yards de la end zone, et il y a un fumble de Tom Brady en première mi-temps, où là encore, il récupère le ballon à 20 yards de la end zone, donc ce qui a fait beaucoup de mal aussi à Tampa, mais Kansas City a su capitaliser, ce qui est aussi une qualité dans ce genre de choses. On parlait du jeu au sol, chez les Buccaneers, c'était pas tout à fait ça, alors évidemment, ils ont couru derrière le score, donc on oublie un peu le jeu au sol. 6 courses, 3 yards, 1 touchdown. Ce qui fait quand même 1 touchdown en 6 courses. Donc ça fait un beau ratio. Ça fait un touchdown toutes les 6 courses. Toutes les équipes ne peuvent pas s'en vanter. Est-ce qu'on met ça sur le fait qu'ils ont été rapidement menés ? C'est pas une équipe de sol déjà de base. Donc on dit, bon voilà, ils ont été rapidement menés. Parce que ça fait quand même 52 passes pour Tom Brady.
Oui, non, je pense que c'est le cas. Alors, la semaine dernière, on s'était déjà inquiété sur le fait d'avoir un jeu au sol un peu moyen face aux Packers pour les Buccaneers. Là, on rajoute le fait qu'ils sont derrière dès le début, tu l'as dit, très rapidement. Donc, il faut avancer rapidement. Donc, et surtout, les cibles de Tom Brady étaient toutes de retour. Donc, forcément, on s'est penché plus pour une attaque aérienne. C'est pas inquiétant, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, je pense, du côté des Buccaneers. En effet, le 3 yards, ce chiffre-là, il est marquant parce que c'est très rare quand même. Mais je tirerai pas plus de leçons que ça de ce 3 yards-là.
Ça fait, alors attends, je voulais vérifier parce que j'ai quitté la fiche de stats, mais je crois que ça fait du coup une moyenne négative. Non, ça fait 0,5 yards de moyenne par course, parce que Léonard Fournette, il est à 3 courses et moins 3 yards. Il a une moyenne de moins 1 yard par course, Léonard Fournette, sur ce match. Tom Brady, il monte en puissance, 27 passes lancées sur le premier match, 34 ensuite, 42 et 52. Donc on est sur un rythme où il va en lancer 62, hein, je pense, sur le prochain match. Mais moi, tu vois, je vais pas dire qu'il n'y a pas de victoire morale en NFL, mais au final, tu l'as dit, ses cibles sont de retour. Il en 52 passes, il y a 385 yards, il y a 3 touchdowns, il n'y a pas d'interception. Ça veut dire que Brady peut toujours lancer 50 passes par match. Il peut lancer 380 yards sans se faire intercepter. C'est le premier match où il lance plus d'un seul touchdown, hein, d'ailleurs, cette saison. Donc, c'est presque une sorte de démarrage, quoi. C'est une équipe qui est dans une division assez faiblarde. M'en fais pas pour eux, ils vont monter en puissance. Voilà.
Ouais, ils sont à 2-2, ça rappelle un petit peu le début de saison 2020 où aussi ils n'avaient pas forcément écrasé tout le monde dès le début. Ils finissent, je crois, à 11-5 ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il y avait encore que 16 matchs. C'est vrai que pour eux, ils ont certaines certitudes. On le voit quand, en effet, toutes les cibles reviennent. Mike Evans était de retour, Godwin était de retour, Julio Jones aussi. Ça déroule en attaque, en tout cas. Si ce n'est déroulé, ça marche bien en attaque. Maintenant, il faut que les deux équipes, les deux parties du terrain fonctionnent bien. Ils affronteront pas les Chiefs toutes les semaines. Après, ils pourraient peut-être affronter les Chiefs en finale, au Super Bowl. Donc, il faudra battre ce genre d'équipe-là. Mais en effet, ça fait deux défaites consécutives pour des Buccaneers. Mais on les attend plus tard dans la saison. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude plus que ça.
Avec Brady, une bonne défense quand même en général.
Après, encore une fois, je le répète, je l'ai dit déjà la semaine dernière, moi, ce qui m'attriste un petit peu, en tout cas, enfin, l'inquiétude que j'aurais, c'est le poste de tight end. Gronkowski était très, très important l'année dernière et encore plus l'année d'avant. Ils n'arrivent toujours pas à trouver cette solution, notamment au milieu du terrain. On a vu Brate un petit peu ciblé, on voit Julio Jones qui essaye, mais il n'y a pas encore cette cible-là qui est vraiment propre à Tom Brady, et il va falloir la trouver parce que c'est important pour lui.
D'autant que Cameron Brait sort, si je ne dis pas, avec une commotion cérébrale. Il sort sur blessure, mais j'ai un doute parce qu'il y a eu tellement de commotions cérébrales. Oui, il fait partie de la liste des commotions cérébrales, Cameron Brait. Donc ça facilite pas les choses. On n'a pas dit en un mot, juste pour revenir sur les Chiefs, mais la protection a été bien meilleure. C'est quand tu as parlé du Super Bowl que ça m'a fait tiquer.
Oui, c'est Patrick Mahomes
qui disait, si la protection est à ce niveau-là toutes les semaines, ce sera aussi beaucoup plus facile.
Ah ben là encore une fois, il a enfoncé une porte ouverte, hein, mais il a tellement raison, et on n'est pas obligé de remonter jusqu'au Super Bowl d'il y a 2 ans. On se rappelle juste la semaine dernière, la protection n'était pas au top et on le disait, il était un peu plus frénétique. Là, il a le temps d'être calme dans sa poche, de sortir quand il faut. Quand il sort en plus et qu'il fait de manière sporadique, il est très très bon. Donc en effet, si la protection est bonne, va falloir aller le chercher.
Et un match exceptionnel puisque Tom Brady a perdu, mais il a quand même serré la main du quarterback adverse.
C'est beau.
Il n'est pas parti en boudant à 45 ans, ça y est. Il y arrive. On termine avec le Saints-Vikings. 25 pour les Saints, 28 pour les Vikings. La NFL était de retour à Londres et on voulait le mettre dans les affiches de la semaine parce que Lucas, tu y étais. Avoue que ça aurait été un peu bête de le débriefer sans toi quand même demain, ouais, dans l'émission.
En effet.
Minnesota a mené pendant 3 quarts temps. Les Saints sont passés devant grâce à un touchdown de Taysom Hill dans le 4e quart. Justin Jefferson a remis Minnesota devant avant l'égalisation de Will Lutz sur un field goal de 60 yards. Greg Joseph a remis Minnesota devant avec un autre field goal et les Saints ont raté le field goal de l'égalisation à la dernière seconde sur un double poteau. Ça a fait dwing sur le montant sur le montant droit, enfin ou gauche, et après la transversale, et ça ressort. Lucas, sacré résumé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, au moins en deuxième mi-temps.
Oui. Oui, c'est voilà. Passé, ouais, au moins en deuxième mi-temps. C'est vrai que la première était un peu plus...
Est-ce que tu t'es bien amusé?
Oui.
Je commence par ça.
Oui, oui, la réponse est oui, forcément. Bah déjà parce qu'il y a tout le décorum autour, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Londres pour un match de NFL. Ils le savent, c'est toujours une très bonne ambiance. On s'amusait, j'étais avec Jonathan, un des newsers et chroniqueurs aussi du site, et on s'est amusé aux abords du stade à compter le nombre de maillots. On s'est pris les 8 divisions, savoir si on voyait les 32 maillots de NFL. On les a eu tous. On les a tous eu, 32 maillots de NFL. C'est dire, voilà, c'est toujours une très bonne ambiance, il y a toujours beaucoup de monde. Le stade que je découvrais était incroyable, et incroyable, moderne, mais comme on en parlait juste avant, Alain, on peut le dire, mais il est moderne. Mais en même temps, il n'est pas comme ces stades modernes qui peuvent parfois ne pas vraiment avoir d'âme. Je l'ai trouvé très bien. Donc voilà, il y avait tout qui était fait pour que tout se passe bien. Si tu rajoutes à ça un bon match, surtout une très belle fin, parce que en effet, le début était un petit peu plus poussif. On a eu du mal à voir comment ça allait tourner. Et puis finalement, le quatrième quart-temps notamment est incroyable. Donc tout ça ajouté, la réponse est oui, je me suis très bien amusé. Et je pense que Jonathan aussi, si je me permets de parler pour lui, c'était très sympa.
On rappelle que le stade, c'était Tottenham, hein, on ne l'a pas précisé,
ouais, Tottenham
à l'entrée, qui a une pelouse spécialement conçue pour la NFL, qui est située sous la pelouse de l'équipe de foot. Et en effet, magnifique ambiance, magnifique tribune. Lucas, est-ce que les Vikings se sont fait un peu peur pour rien? Alors attends, non, je voulais commencer avec autre chose, on a parlé de la fin de match. Est-ce que dans le stade, quand ça tape les poteaux, quand le ballon tape les poteaux, tu l'entends? Est-ce que ça fait un gros bruit?
J'essaie de me souvenir, parce que là, à ce moment-là, et ceux qui écrivent sur le site pourront se rappeler de ça, mais à ce moment-là, on est en train de d'écrire le résumé. Très clairement, si on veut livrer le résumé rapidement, il faut que le résumé commence à être écrit pendant le match. Et le problème, c'est que sur une situation comme ça, on le change 3-4 fois le résumé, ou du moins on change 3-4 paragraphes rapidement. Donc à ce moment-là, je suis concentré sur savoir si ça passe ou pas. Je suis en train d'essayer de me souvenir. Je veux pas dire de bêtises. Je pense qu'on l'entend. C'est parce qu'il y a en effet ce dunk, ce double de dunk, ouais, comme les Vikings l'ont tweeté. Je pense qu'on l'entend. Il y a aussi un gros bruit de. Pour ma part, on est sur le côté du coup où le ballon tape le poteau. C'est le poteau droit, en tout cas le gauche quand on regarde les poteaux. Et on est de ce côté-là nous. Et je le vois taper la barre. Et en fait, je vois pas bien si ça tape la barre et ça tombe derrière ou si ça tombe devant. Mmh. Il faut attendre une demi-seconde qui est très longue à ce moment-là. Donc, je sais pas si on part en prolongation, s'il faut que je rechange mon résumé ou s'il faut que je le publie rapidement. Il y a tout le stade qui crie. Il y a d'un côté le stade qui ne sait pas mais qui crie parce qu'il voit taper. De l'autre, ceux qui ont vu, mais on sait pas si c'est les Vikings ou les Saints qui crient. Donc, c'est toute une ambiance comme ça. Je saurais pas dire si ça tape bien le poteau, enfin, si on l'entend. Mais en tout cas, ça, c'est un moment assez particulier, ouais, un peu suspendu.
Ce qui lance tout un débat philosophique, faut-il commencer à écrire son résumé de match avant ou pas? Parce qu'au final, le temps que tu perds à le modifier, tu vois, c'est...
Ouais, ouais. Mais bon, là, je pense que si je m'étais mis après, je pense qu'il sortait maintenant, le résumé.
On devrait, sinon, tu sais, établir des normes de points. Genre, t'as le droit de commencer à écrire à partir de tant de points d'écart ou quelque chose comme ça. On s'est tous fait avoir, de toute façon, avec ce genre de choses-là. Donc, j'allais y venir à est-ce que les Vikings se sont fait peur pour rien?
Oui. Oui, très clairement, ils se sont fait peur pour rien. Alors, il y a deux façons de voir ce match-là. Et on a pu aller en conférence de presse, notamment après, notamment celle des Vikings. Eux, pour spoiler directement, eux, ils voient de la bonne façon. Ils voient du côté où, en effet, ils se sont fait peur. Mais ils ont réussi à gagner ce match-là. Et c'est un match, et il est vrai que l'année dernière, ils n'auraient peut-être pas gagné. On se rappelle, on le sait, les Vikings, ils perdaient beaucoup sur des actions décisives en fin de match, sur des field goals passés ou des field goals manqués l'année dernière et même les années précédentes. C'était un peu l'équipe type pour ce genre de choses-là. Et là, pour le coup, ils gagnent ce match-là. Et eux, les Vikings, en conférence de presse, ils appuyaient, notamment le coach, mais aussi Adam Thielen qu'on a pu voir, Justin Jefferson, ils appuyaient vraiment sur le fait qu'ils ont réussi à se sortir d'un piège qui était tendu parce que ils se sont fait peur, en effet. Après, il y a la deuxième manière de voir ce match-là, c'est de dire qu'ils sont à 7-0, ils dominent le match. Alors, je crois que New Orleans égalise très rapidement, ils sont à 7-7, mais après, c'est quasiment que du Vikings pendant un bon moment. Et ils n'arrivent pas à concrétiser, ils n'arrivent pas à finir les actions. J'ai une image de cette passe de Kirk Cousins pour Justin Jefferson dans la end zone qui est un peu trop derrière lui et qui aurait dû finir par un touchdown relativement facile. Donc ils doivent plier ce match bien plus tôt et je dois pouvoir sortir mon résumé à la mi-temps. Voilà. Donc j'abuse un petit peu, mais en tout cas ils auraient dû le finir ce match-là.
Non mais c'est vrai qu'avant la mi-temps, en effet, ils vendangent parce qu'ils sont deux fois dans les 20 yards adverses et ils prennent deux field goals. Donc déjà, ils laissent des points là, ils laissent des points sur un extra point qui fait que le field goal de Will Lutz, normalement, il aurait pas dû être pour l'égalisation, mais il aurait dû être pour être un point derrière. Ou alors, il y aurait pas eu de field goal et ils auraient dû tenter une quatrième. Enfin, donc en effet, ils se sont quand même beaucoup fait peur. Après, tu l'as dit, au moins, ça t'a permis de te régaler avec Justin Jefferson. 10 réceptions pour 147 yards. Je suppose que Justin Jefferson, en vrai, entre guillemets, c'est plutôt sympa.
Ouais, c'est plutôt sympa, en effet. Surtout que voilà, ça faisait 2-3 semaines, du moins 2 semaines où il était frustré. Il avait dit, et il l'a répété encore une fois, il était très frustré du fait qu'il avait été, beaucoup de prises à deux. Et là, les Saints avaient décidé de jouer uniquement avec Marshon Lattimore. On lui a posé la question en conférence de presse, est-ce qu'il se doutait qu'il n'allait pas avoir être pris à deux et qu'il allait uniquement être sur Marshon Lattimore. Et il a dit, c'est Marshon Lattimore. Je doute que Marshon Lattimore accepte qu'il y ait une prise à deux derrière lui, qu'il ait un safety qui l'aide. Il y a aussi beaucoup d'ego. On les a vu beaucoup parler dans le match. Mmh. Et derrière ça, en effet, Justin Jefferson a été parfois bien maîtrisé. Parfois, il a réussi à prendre le dessus, notamment sur certaines réceptions, sur la réception qui amène ce field goal de la gagne, du coup. Et en effet, c'est très impressionnant. Ça va très vite. C'est quelque chose, en effet, Justin Jefferson.
Les Saints alignent Andy Dalton, ce qui était une nouveauté cette saison, puisque Jameis Winston était blessé au niveau de la cheville, du dos et du genou. Cheville, dos, genou, il y en avait trois.
Kent Flush Royal.
De mémoire, comment ?
Kent Flush Royal.
C'est ça, là il a fini par abandonner. Est-ce qu'on laisse Andy Dalton sur ce que tu as vu ? Parce qu'au final, il n'est pas catastrophique. Il n'est pas bon non plus, Andy Dalton.
Non, il n'est pas cata. Oui, c'est ça, il n'est pas cata. Il ne fait pas particulièrement d'erreurs qui tue le match parce qu'en effet, il aurait pu. On l'a dit, les Vikings étaient devant et il ne fait pas forcément ces grosses erreurs que pourrait faire Winston qui sont là pour sauver et puis finalement qui se retournent contre cette équipe-là. Il ne fait pas d'erreurs et petit à petit, cette équipe-là est revenue. Il y a quelques drives quand même qui sont sympas. Il y a aussi ces deux drives qui permettent de faire, alors certes, des field goals assez loin, mais qui permet quand même de donner éventuellement un petit pourcentage de chance à son équipe, soit de passer devant, soit d'égaliser. Donc, je pense qu'il y a un peu de mieux du côté d'Andy Dalton. C'est un vétéran. On sait ce qu'il va donner, on sait ce qu'il ne va pas faire. Mais pourquoi pas, il faut rappeler qu'il manquait aussi Michael Thomas, Alvin Kamara, donc si on rajoute ces deux joueurs-là, peut-être que c'est encore mieux. C'est vraiment deux philosophies, c'est vraiment le quarterback qui peut aller très haut et très bas, ou le quarterback qui peut rester à un niveau très constant, pas très haut, pas très bas, mais on sait ce que ça vaut. C'est à Dennis Allen de choisir, mais bon, personnellement, je mettrais peut-être plus Andy Dalton, ouais.
Même chose, mais moi ça fait des semaines que je dis que je comprends pas pourquoi Jameis Winston est là, et tu l'as dit, il manquait en plus Kamara et Michael Thomas, donc il perd un fumble quand même, il est pas parfait, mais il flingue pas, il est à 20 sur 28, 236 yards, un touchdown, 0 interception. Bon, c'est pas flamboyant, et quand la défense de Minnesota peut pas gagner de New Orleans peut pas gagner le match, forcément c'est compliqué avec les quarterbacks qu'ils ont cette année, avec les blessures quand même, puisque donc Kamara, Thomas, même Jarvis Landry est là, mais il est pas vraiment là sur ce match, donc c'est quand même très compliqué pour New Orleans sur cette rencontre. Et c'est on l'a dit, c'était quand même assez improbable déjà qu'il soit dedans jusqu'au bout, quoi. Et il fallait le rentrer. Le field goal de 60 yards, je suppose que ça fait loin. C'est pareil quand t'es dans le stade. Hein.
Ah oui. Bah, il est sur le logo. Alors, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir des field goals en vrai, surtout d'aussi près. Mais en effet, quand on voit 60 yards, alors surtout qu'il y a certes la ligne, mais du coup, on additionne certains yards. Donc, on a du mal, nous, à savoir exactement à combien de yards on est. Quand on voit qu'apparaître que c'est 60 yards, on se dit, bon, c'est pas évident. Et puis, ça tape. Il y avait aussi beaucoup cette discussion-là de ces kickers désormais qui sont capables de mettre, alors peut-être pas à tous les coups, parce qu'en effet, lui, il avait 60 et peut-être pas 61 yards dans la chaussure, mais ces kickers qui allongent de plus en plus le terrain, parce que désormais, oui, il y a eu Tucker pendant longtemps, il est toujours là, mais il y a d'autres kickers qui sont capables de taper des field goals de loin, ce qui ouvre des possibilités offensives et aussi défensives, ce qui change un petit peu, alors c'est à la marge, mais qui change un petit peu l'approche du jeu pour les coachs, qu'ils soient offensifs ou défensifs.
J'ai l'impression que les kickers, tu sais, avant, c'était des snipers, c'est-à-dire qu'ils rataient moins, mais ils pouvaient tirer de moins loin. T'allais à 52, 53, 55, tu vois, si... Maintenant, les mecs ont des bazookas, mais par contre, ça peut aller n'importe où, quoi. C'est-à-dire qu'à 61 yards, il peut le mettre, parce que là, il a la longueur, hein. Il tape le poteau sur le côté d'abord.
Ah oui.
Donc, ils ont des bazookas. Par contre, à 30 yards, ils peuvent balancer un truc dans le filet. Je sais plus c'est lequel. C'est pas les Colts ou quelque chose comme ça. Il y a un kicker hier qu'on a raté un, je crois, à 35, qui balance à côté du filet de protection, quand même.
Après, donc, c'est un poste tellement ingrat, parce que si on y pense, je crois que j'ai oublié le nom du kicker, Greg Joseph, je crois, du kicker de
pour les Vikings, ouais.
Qui fait un 5 sur 5, il me semble, en field goal, et qui manque simplement l'extra point, et qui était à deux doigts de presque leur coûter le match. C'est un poste tellement ingrat, tellement particulier qu'il fait un très bon match en somme, mais presque qu'il leur a coûté le match.
On saluera pour les Saints avant de partir la prestation de Chris Olave, quand même, le rookie, 4 réceptions, 67 yards et un touchdown. Les petites questions perso quand même pour les gens qui sont à Londres, j'aime bien, pour finir, Lucas. Bon, t'as dit c'était bonne ambiance, etc. Il faisait beau du coup à Londres, j'avais l'impression.
Et oui, il faisait beau, c'était annoncé comme un jour pluvieux, il n'en est rien, puisqu'il il a fait très beau, pas forcément, enfin, il a fait chaud, il a fait très bon, on était en t-shirt, petite veste, non, il a fait, c'était une très très, parce qu'il y a aussi le fait que pour ramener au match, mais 60 yards dehors, il tape 60 yards dehors. Il y avait très peu de vent. Non, franchement, c'était les conditions parfaites.
Est-ce que tu as mangé des cookies?
Des cookies, non, j'ai
pas allé chez Ben's.
Non, en fait, je dois avouer que, pour parler un peu personnellement, l'avion a eu beaucoup de retard la veille du match, donc je suis arrivé très tard. Je me suis réveillé, forcément, l'idée étant d'arriver assez rapidement, pas très loin du stade, parce que là-bas. C'était donc à 14h30, le match à 14h30 avec une heure de moins. Donc l'idée étant d'arriver un petit peu tôt au stade pour pouvoir profiter de l'ambiance et tout. Donc et puis je suis reparti quasiment dans la foulée. Je suis reparti le matin, mais il a fallu que je rentre. Donc j'ai pas eu l'occasion de faire autre chose que le stade, mais c'est déjà pas mal.
En tribune de presse, t'as mangé des trucs très étranges que vous avez mis sur, alors, sur Twitter. Il y avait une sorte de, je décris pour les gens, mais il y a une sorte de barquette avec deux nuggets et trois patates qui se battaient en duel. Ils vous ont donné ça genre comme ça, ou vous choisissiez les quantités?
Non, alors premièrement, c'est vrai qu'on va rétablir certaines vérités. J'ai vu que la question était posée. La chance qu'on a, c'est à des certains avantages d'avoir une accréditation, c'est que la nourriture est offerte, donc on n'a pas acheté ça, ni Jonathan ni moi-même. Et ensuite, alors contre toute attente, c'était très bon. Déjà, c'était des Thunders qui étaient très bons. Et en effet, il y avait deux Thunders et quelques frites qui étaient, elles, pour le coup, pas très frites. Après, j'ai pas voulu le mettre sur Twitter pour vexer personne. Ce sont quand même des Américains qui délocalisent en Angleterre. Voilà. Imaginez bien que la nourriture, c'est pas forcément la priorité. Je vais quand même dire que c'était le petit encas de mi-temps. Et il y avait quand même un repas avant match qui était normal.
En effet, je pense que personne ne devrait avoir à payer pour de la bouffe anglaise, enfin américaine, en Angleterre. Ouais, clairement, non, c'est beaucoup trop. On revient au football. Pas de vestiaire, mais conférence de presse, si j'ai bien compris.
Exactement. Il n'y avait que certains médias qui étaient acceptés dans le vestiaire, à l'inverse de ce qui avait pu se faire. Notamment, j'avais eu la chance de le faire avant le Covid. Là, il n'y avait que certains médias. On n'y était pas. Il fallait un certain numéro sur l'accréditation. Par contre, les conférences de presse, ce qui est un peu particulier, et j'avais remarqué ça, et ça me pose toujours question. Les conférences de presse se font quasiment en même temps entre les Vikings et les Saints. Ils partent du principe que les beat writers, comme on le dit, les rédacteurs suivent une équipe et pas l'autre. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir... Alors, on a les transcripts dans la foulée, on a ce qui s'est passé du côté de la conférence de presse des Saints, mais c'est un peu dommage, à l'instar de ce qui peut se passer dans certains autres sports où les je le vois notamment dans le rugby, où les joueurs arrivent les uns après les autres. Alors oui, ça fait attendre les joueurs, mais ça nous permet de profiter de tout le monde, entre guillemets. Là, il a fallu choisir, on a toujours tendance à choisir les gagnants. C'était pour le coup très intéressant.
Donc il y a deux salles de presse.
Il y a deux salles de presse, oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de salles que ça à Tottenham. Mais en effet, il y a deux amphithéâtres, deux auditoriums. J'en ai vu qu'un, mais il y en a bien deux. Oui.
Ah oui, j'avais plus souvenir de là. Mais oui, maintenant que tu le dis, en effet, faux. Et puis ils sont pas à côté en plus de mémoire. T'as vraiment pas le choix, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. C'est dommage, surtout pour nous, des journalistes qui sommes amenés à travailler sur les deux équipes, parce que la conférence de presse du perdant peut être aussi intéressante. Bon, là pour le coup, ça a été celle des Vikings. Il y a Tilem, Peterson et le coach. Kendricks qui sont passés, tous ont été très sympas. J'étais agréablement surpris de leur disponibilité et très à l'américaine, toujours à répondre à n'importe quelle question et toujours de faire le travail. C'était très agréable.
This is business, my friend.
Exactement.
C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 514 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup, Lucas. On va te laisser aller te reposer un petit peu après toutes ces aventures, l'avion, la nourriture anglaise, etc. Tu vas te ressourcer un petit peu au soleil avec des plats méditerranéens. Ça requinque, quoi.
Exactement.
Ça requinque un petit peu. On se retrouve dès mardi. Non, on est quoi? On est mardi matin au moment où vous nous écoutez. Donc, on se retrouve dès mercredi matin pour le débrief complet de toute la semaine. Ce sera avec Victor et peut-être Raphaël Masmejean. On remercie tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. La liste des tipeurs des deux dernières semaines, c'est dans l'émission de demain, je vous le promets. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, @TD Actu sur Twitter et Facebook et TikTok, @TouchdownActu en entier sur Instagram. Elle vola pour Nuka sur Twitter. Et tdactu.com évidemment pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt sur les antennes de TDA.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Everyone has that one goal, that thing they want to prove, not to other people, but to themselves. Then right when you think you could actually do it, cancer. And that goal is still within reach. Oh no, I'm about to run my first ever marathon with my two best friends. 3 years after having cancer.
At least we look good in these shorts.
Woo! Let's get it, guys. You, keep making plans.
Visit OhioHealth.com/keepmakingplans to learn more.